France Culture.
Il est 18h sur France Culture, c'est l'heure de retrouver le journal de la rédaction présenté par Camille Marigaud. Bonsoir Camille.
Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. 2 ans après l'attaque du 7 octobre en Israël, pas d'enquête indépendante mais une commission sur mesure pour le gouvernement qui donne son feu vert à l'instance dont il pourra lui-même désigner les membres. Les familles de victimes dénoncent un écran de fumée. Se cacher pour éviter la guerre, c'est ce qu'ont choisi de nombreux Ukrainiens qui refusent de partir au front. Rencontre avec l'un d'entre eux. Nous serons aussi au Cambodge. En plein conflit à la frontière avec la Thaïlande, des civils prêtent main forte aux autorités pour venir en aide aux centaines de milliers de déplacés. En France, pas de budget pour Noël. En attendant, une loi spéciale pour assurer la continuité de l'État. Elle est présentée ce soir en Conseil des ministres. Les éleveurs de bovins ont pour la plupart levé leur blocage, mais une poignée d'irréductibles maintiennent leur barrage dans le sud-ouest, mobilisés toujours contre les abattages de troupeaux touchés par la dermatose nodulaire et l'industrie laitière. Elle redoute une taxe chinoise sur les produits laitiers européens censée entrer en vigueur demain. Enfin, un maire de Dordogne menacé de perdre son écharpe tricolore après des propos antisémites. En Israël, le fossé se creuse encore davantage entre le gouvernement et les familles des victimes du 7 octobre. L'exécutif a donné aujourd'hui son feu vert à la création d'une commission d'enquête sur les attaques du Hamas. Mais le format choisi, très politique, provoque un tollé. L'opposition et ses familles y voient une tentative de blanchiment des responsabilités de Benjamin Netanyahou. Michel Paul, RFI pour France Culture.
Pas d'enquête indépendante, mais une commission sur mesure. Le gouvernement israélien a approuvé un projet de loi qui lui permet essentiellement de choisir ses propres enquêteurs et de fixer le mandat de la commission. Netanyahou a déclaré qu'il fallait examiner les décisions prises depuis Oslo et le désengagement de Gaza en 2005 et jusqu'à la rébellion des militaires et la réforme du judiciaire. Colère des familles d'otages et des victimes réunis face au bureau du Premier ministre.
Nous sommes ici les familles du Conseil d'Octobre, les familles de ceux qui ont payé le prix. Nous sommes là pour dire à ce gouvernement, vous n'échapperez pas à vos responsabilités. Une commission d'enquête nationale verra le jour. On ne vous permettra pas de créer une commission d'enquête politique. Nous veillerons à ce que vous payiez le prix.
2 des proches d'Ayala Metzger ont été prises en otage le 7 octobre.
Dans quel monde un criminel mène lui-même l'enquête ? Celui qui est soupçonné d'un crime, qu'il permette au moins d'enquêter jusqu'au bout pour que cela ne se reproduise pas. Nous ne permettrons pas d'occulter la vérité sur cet événement.
Pour le chef de l'opposition israélienne Yair Lapid, ce n'est pas une commission d'enquête qui est proposée, mais un certificat de décès de la vérité.
Le Danemark va convoquer l'ambassadeur des États-Unis à Copenhague pour des explications. Le ministre danois des Affaires étrangères se dit indigné par la nomination par Donald Trump d'un envoyé spécial pour le Groenland, un territoire autonome danois que le président américain a déjà menacé d'annexer. L'Union européenne exprime ce soir sa pleine solidarité avec le Danemark et le Groenland. La carcasse d'une voiture éventrée, la mort d'un général de l'état-major de l'armée russe dans une explosion à Moscou. L'annonce de ce décès aujourd'hui intervient en pleine séquence diplomatique pour mettre fin à 4 ans de guerre entre l'Ukraine et la Russie. La Russie évoquant aujourd'hui de lents progrès, de quoi doucher l'optimisme affiché hier par Washington et Kiev. Et sur le terrain ukrainien, la région d'Odessa au sud a de nouveau été visée ce lundi par des frappes russes. Elles ont touché des infrastructures énergétiques et maritimes, faisant un blessé selon le gouverneur. Une situation toujours très difficile sur le front, donc en marge d'avancée timide au plan diplomatique. Pas question pour Kiev donc du moindre relâchement. Et dans tout le pays, la police ukrainienne traque ceux qui ne sont pas encore mobilisés. Et pour échapper à la mort, beaucoup se cachent. Le correspondant de RFI pour France Culture, Théo Renaudon, a rencontré l'un d'entre eux.
Alexandre, c'est le prénom qu'il s'est choisi pour cette interview, nous a donné rendez-vous quelque part en Ukraine, au fin fond d'un tout petit village, route en terre, toit en tôle, maison en bois. C'est ici, seul, qu'il a décidé de se cacher.
À n'importe quel moment, quand tu marches dehors, tu peux être enlevé et mobilisé par des militaires ou par la police.
Pourquoi fuir l'armée ? Pourquoi fuir la mobilisation ?
Je ne veux pas aller à la guerre parce que j'ai peur de mourir. Pour moi, la vie, c'est plus important que de défendre leurs intérêts.
Pour vivre, Alexandre s'est trouvé un télétravail. À quoi ressemblent vos journées ?
Ici, je ne me cache pas vraiment des militaires. Ils ne passent jamais par là. Maman vient en voiture, elle achète tout, elle apporte tout et elle cuisine pour moi. Même si, bon, c'est vrai que je pourrais cuisiner moi-même.
La fin de la guerre, Alexandre l'attend. Mais il craint de nombreux problèmes après avoir fui les combats. Des problèmes qui disparaîtront, selon lui, avec le temps. C'est toujours mieux que le front souffle l'Ukrainien qui risque d'ores et déjà la prison pour s'être caché.
Le reportage de Théo Renaud, donc correspondant de RFI pour France Culture en Ukraine. Les pourparlers vont continuer en vue d'un cessez-le-feu cette fois entre le Cambodge et la Thaïlande, annonce faite à l'issue d'une réunion de l'ASEAN, l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est. Ces discussions sont prévues pour mercredi, même si sur le terrain la tension reste forte. Le Cambodge assurait encore cet après-midi avoir été visé par des frappes thaïlandaises. Depuis deux semaines, la reprise de ce conflit à la frontière, débutée cet été, a fait une quarantaine de morts des deux côtés. Il a aussi poussé environ 900 000 personnes à fuir. Et côté cambodgien, la population civile se mobilise aux côtés des autorités pour apporter de l'aide à ces exilés. Exemple avec cette mission médicale que Juliette Buchez a suivie dans la province de Siem Reap, au nord-ouest du pays.
Ce nourrisson de 9 mois souffre d'un rhume et de diarrhée. Sa mère, Sarek, est venue consulter l'équipe de médecins volontaires.
Quand les bombes sont tombées, je n'ai pu emmener que mes enfants. Je suis contente que ces médecins soient là car mon fils ne va pas bien. Et je n'ai pas d'argent pour les médicaments, mais ils ont pu m'en donner.
À côté, le docteur Thierry Choui nettoie la blessure au pied d'un moine bouddhiste. Le médecin français installé dans la capitale Phnom Penh est issu de la diaspora cambodgienne qui a fui la guerre à la fin des années 70. Dès juillet, il initie une mission médicale. Le week-end dernier, elle comptait 51 bénévoles, locaux et étrangers.
Vous mettez des gens avec des conditions de vie précaires au même endroit, donc les pathologies infectieuses, ORL, bronchitis, gastro, cutanées vont se développer sur un climat comme le Cambodge. On a pas mal de dingues.
Les autorités sont mobilisées, mais elles manquent de moyens pour gérer 500 000 déplacés. Ici, c'est avec prudence qu'on envisage tout cesser le feu.
Au cessez-le-feu de juillet, les gens étaient très enthousiastes. Les Cambodgiens déplacés ont bien compris la leçon. Même s'il y a un cessez-le-feu, les camps ne vont pas se vider demain. On aura besoin de nous encore parce que les gens vont avoir peur, ils vont rester.
Le week-end dernier, plus de 700 patients cambodgiens ont pu bénéficier des soins de cette équipe médicale.
En France, après les socialistes, les communistes et les écologistes, Sébastien Lecornu reçoit en ce moment les Républicains à Matignon. Nouvelle journée de consultation pour préparer le terrain en vue de nouvelles discussions budgétaires après les fêtes. L'échec de la commission mixte paritaire vendredi dernier ayant enterré l'espoir d'un projet de loi de finances avant le 31 décembre, bloquant aussi des dépenses comme le dispositif MaPrimeRénov qui sera de nouveau suspendu au 1er janvier en attendant l'adoption d'un budget. D'ici là, pour permettre à l'État de continuer à fonctionner, une loi spéciale sera présentée ce soir en Conseil des ministres. La Commission des finances de l'Assemblée, elle, va auditionner un peu plus tard les ministres des Finances et des Comptes publics sur ce texte censé être voté demain au Parlement, a priori sans encombre. Une loi spéciale, c'est bien un budget, estime le président insoumis de la Commission des finances, Éric Coquerel, et pour lui, aucune raison de se précipiter pour adopter le projet de loi de finances en janvier.
En réalité, c'est le budget qui a été adopté l'an dernier, donc il y a bien des recettes, il y a bien des dépenses, et c'est uniquement le gouvernement qui décide pour l'instant d'en présenter la vision la plus drastique possible pour faire une pression sur les assemblées afin qu'elles adoptent au plus vite un budget pour 2026, donc la loi spéciale pour au moins quelques mois permet à l'État de continuer à fonctionner. C'est pas conçu pour durer, vous savez, les Espagnols ont une loi spéciale depuis 3 ans, ils ne votent pas le budget et pour autant l'économie espagnole ne va pas si mal. Cette idée de faire peur aux Français en laissant penser que la loi spéciale ne permettra pas d'engager certaines dépenses, par exemple le gouvernement parle de MaPrimeRénov, c'est uniquement parce que le gouvernement présente une vision très réduite de la loi spéciale. Ce que dit le texte, c'est que c'est les budgets indispensables qui doivent être libérés. Bah, chacun voit que c'est assez subjectif. Donc je ne dis pas que ça peut durer, mais pas au point de mettre la pression que veut faire le gouvernement pour adopter en un mois un budget qui, pour notre part, sera un mauvais budget On continuera de ce point de vue-là à avoir la même optique de résistance face à des budgets macronistes.
Et du côté des socialistes, reçu par Sébastien Lecornu tout à l'heure, le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, a dénoncé une droite qui se refuse à toute forme de compromis sur le futur budget que la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, espère donc pour la fin du mois de janvier. De nouveaux cas de dermatose nodulaire contagieuse détectés en Haute-Garonne et dans les Pyrénées-Orientales aujourd'hui, alors que la mobilisation des éleveurs de bovins contre l'abattage des troupeaux touchés recule avec la levée de nombreux blocages ce week-end. Cette mobilisation se concentre désormais dans le sud-ouest où certains éleveurs comptent tenir au moins pendant les fêtes. C'est le cas sur l'A64 à Carbonne où malgré la fatigue après 10 jours de barrage, ils étaient encore une trentaine présents sur place aujourd'hui. Reportage Marie Boéda.
Oui, il y a même un écran géant qui a été installé sous le pont. Et puis, 10 sapins de Noël, avec sur certains un souvenir des bords de Sur-Arize, cette ferme où 200 vaches ont été abattues en Ariège et qui a déclenché leur colère.
Mais ça, c'est des restes des grenades à lacrymo qui nous ont balardés dans la gueule. Ça, c'est une 50 mètres, celle-là. On a fait du recyclage. Il y a des 100 mètres, il y a des 200 mètres.
Et ça remplace les boules de Noël.
Ouais, mais surtout pour se rappeler que l'État nous a méprisés totalement, nous a rabaissés. Là. Ils ont perdu une grosse cote de popularité.
Lui, c'est Jérôme Bail, il est éleveur et président des Ultras de l'A64, l'un des piliers de ce barrage.
On est là, il fait froid, on mange, on est entre nous, on se remonte de morale.
Manon André essaye de se réchauffer, son écharpe rose bien enroulée autour du cou. Cette éleveuse de vaches et de brebis en Ariège a fait vacciner ses bêtes. Mais tant que le gouvernement ne leur aura pas donné l'assurance qu'on ne tuera pas le troupeau en entier en cas de contamination, elle ne dormira pas tranquille.
Nous, tous les jours, on vit avec la peur qu'un troupeau soit impacté par la DNC. Voilà, c'est extrêmement stressant. La peur de voir son troupeau abattu peut inciter peut-être les éleveurs aussi à ne pas déclarer.
Rester jusqu'à Noël, jusqu'au Nouvel An, tout est possible sur ces agriculteurs qui se relaient pour aller nourrir leurs animaux. Pas de trêve prévue pour le moment, dit Jérôme Bail, car les revendications sont globales.
Il n'y a pas que la dermatose. Il y a la simplification administrative, il y a les prix d'intervention sur les céréaliers, parce qu'aujourd'hui, nous, dans le département, on a 90 exploitations en redressement judiciaire.
Mais il n'y a pas que des agriculteurs. Karine est vendeuse de fromage.
Nous travaillons avec des producteurs locaux. Et moi, j'estime qu'il faut les soutenir parce que s'ils abattent leurs vaches, nous, ça veut dire qu'on n'a plus de lait.
Pourvu qu'ils tiennent bon, dit-elle, en se frottant les mains pour se réchauffer. Elle est prête à leur rendre visite à Noël, s'ils sont encore là.
Marie Boéda, ici Occitanie pour France Culture. Des producteurs de lait qui s'inquiètent aussi de ces taxes douanières envisagées par la Chine sur plusieurs produits laitiers européens. L'Union européenne a condamné aujourd'hui ces droits de douane censés entrer en vigueur demain et qui pourraient atteindre plus de 42%. À l'issue d'une enquête lancée il y a un an et demi, Pékin estime que ces produits bénéficient de subventions au détriment de leurs concurrents chinois. Cela concerne des fromages frais et transformés ou encore certains laits et crèmes. En France, la Fédération nationale de l'industrie laitière parle d'un coup de massue. Son PDG, François-Xavier Huard, au micro d'Edouard Marguier, nos confrères de France Info.
C'est un vrai coup de massue cette annonce, même si malheureusement on devait s'y attendre puisque l'enquête a été lancée maintenant depuis le mois d'août 2024 et qu'elle doit se terminer en février 2026. Et on avait des bruits qui nous indiquaient que les décisions étaient imminentes, mais ce niveau-là est un niveau quasiment confiscatoire en termes de droits de douane. Et si ces droits de douane devaient être définitifs, une partie du marché de l'export français vers la Chine va carrément se fermer. Et donc, ça veut dire qu'on a derrière nous des millions de litres de lait qu'on collecte et qu'on transforme en produits laitiers auprès des producteurs français qui n'auront plus de débouchés dans un environnement agricole inflammable en ce moment. Donc, ça arrive au pire des moments.
On exporte quoi et combien de tonnes de produits laitiers vers la Chine ?
Alors, on exporte pour l'équivalent de 650 millions d'euros par an de produits laitiers, des poudres de lait infantile, du fromage, de la crème. Et ce qui est particulièrement visé dans cette enquête, ce ne sont pas les poudres de lait infantile, c'est uniquement la partie fromage et particulièrement la crème, puisque la France exporte chaque année 50 000 tonnes de crème vers la Chine. Et sur le fromage, c'est à peu près 6 000 tonnes qui sont directement visées.
François-Xavier Huard, PDG de la Fédération nationale de l'industrie laitière, au micro d'Edouard Marguier. La Commission européenne a déjà saisi l'Organisation mondiale du commerce. Au moins 4 personnes blessées aujourd'hui, dont 3 grièvement dans l'explosion au sein d'une usine chimique au sud de Lyon, à Saint-Fons, sur le site d'Elkem, classé Céveso. L'autoroute A7 a brièvement été coupée dans les deux sens et les habitants appelés à se confiner, mesure désormais levée par la préfecture du Rhône, selon qui cette explosion ne présente pas de risque de toxicité à ce stade. 8 militaires militants écologistes devant la justice aujourd'hui à Saverne dans le Bas-Rhin. Ils sont accusés d'avoir tagué un pont d'autoroute pour dénoncer un projet de confinement de déchets toxiques. Le parquet a requis 3 mois de prison avec sursis. Les prévenus ont dénoncé la surveillance et le traquage des écologistes. Ils étaient accompagnés devant le tribunal par une centaine de manifestants venus les soutenir. Le délibéré sera rendu le 15 janvier. Son écharpe tricolore va-t-elle lui être retirée? Le ministère de l'Intérieur envisage de prendre des sanctions à l'encontre du maire d'Augignac en Dordogne après un commentaire à caractère antisémite de l'élu publié sur les réseaux sociaux. Je cite « La France est trop youpine pour boycotter », écrivait-il le 4 décembre dernier sous un article du journal Libération au sujet du boycott de plusieurs pays de l'Eurovision pour contester la présence d'Israël à ce concours. Jeanne Serre, bonsoir.
Bonsoir.
Et depuis, Bernard Bazinet, c'est le nom de cet élu, a été exclu du Parti Socialiste, mais l'Intérieur souhaite à son tour sévir et envisage donc de le révoquer de ses fonctions.
Oui, il sera reçu demain à la sous-préfecture de Dordogne. Bernard Bazinet, convoqué pour un rappel à l'ordre après une requête du ministre de l'Intérieur. Laurent Nunez a en effet demandé à la préfète du département d'entendre le maire d'Augignac pour lui faire part de la gravité de ses propos, précise la place Beauvau. Des déclarations incompatibles avec sa qualité de maire, estime le ministre, pour qui l'élu ne possède plus l'autorité morale nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Parmi les sanctions envisagées, 2 possibilités. La suspension, d'abord, elle est décidée par un arrêté ministériel et ne peut excéder 1 mois. Mais l'ancien préfet de police ne s'interdit pas d'aller plus loin et de prononcer la révocation. Il suffit d'un décret en Conseil des ministres pour faire tomber le couperet. Cette décision, si elle est prise, serait inédite. Seulement 6 maires dans l'histoire de la Ve République ont été révoqués. Début décembre, l'élu de Dordogne a reconnu une erreur et déclaré « Je n'avais pas conscience du caractère antisémite du terme « youpin ». Exclu du Parti Socialiste depuis, Bernard Bazinet a aussi rendez-vous avec la justice. Il est convoqué en janvier devant le procureur de Périgueux pour injure publique à caractère raciste et devra s'acquitter d'une amende de 500 euros.
Anne Serre, du service politique de France Culture, merci. Une cyberattaque qui tombe au plus mauvais moment pour la Poste. À 3 jours de Noël, l'entreprise subit d'importants problèmes techniques qui affectent même la distribution des colis. Sa filiale, la Banque Postale, est également affectée par cette attaque. Les précisions avec vous, Boris Loumagne. D'abord, que sait-on à l'heure qu'il est de cette attaque informatique ?
Alors, la Poste nous explique qu'il s'agit d'une attaque par déni de service. En clair, des hackers saturent de requêtes des serveurs informatiques jusqu'à ce qu'ils finissent par lâcher. Mais concrètement, quelles conséquences pour la livraison de colis ? La Poste nous indique que pour le moment, elles sont assurées mais perturbées. C'est pas très clair. Ce que l'on sait, c'est que dans quelques bureaux de la Poste, des clients n'ont pas pu retirer ou envoyer leurs colis. Mais dans la majorité des agences, cela fonctionne normalement. Par ailleurs, concernant les livraisons à domicile, le suivi en temps réel du colis sur le site Colissimo est affecté par l'attaque, mais surtout, la Poste nous indique qu'il pourrait y avoir des problèmes à la réception de certains colis. Parfois, vous le savez, il faut donner un code à votre facteur pour valider la livraison. Or, ce code est généré par un système informatique touché lui aussi par l'attaque, d'où la possibilité d'incident, même si la Poste a encore du mal à évaluer l'ampleur de ces dysfonctionnements.
Et la filiale du groupe La Poste, la Banque Postale, Boris, a également été touchée par cette cyberattaque.
Oui, l'application mobile ainsi que le site de la Banque Postale ont été inaccessibles pendant plusieurs heures. L'incident est en cours de résolution, mais certains clients ne peuvent toujours pas consulter leur compte ou faire un virement. Toutefois, bonne nouvelle, il n'y a pas de fuite de données personnelles, précise La Poste. Et puis surtout, vous pouvez encore retirer de l'argent dans les DAB, payer en ligne grâce à un code de validation par SMS et même régler vos achats en magasin.
La Banque Populaire et la Caisse d'Épargne ont également été affectées par des problèmes internes ce matin, désormais résolus. Selon le groupe BPCE, les applications mobiles et les sites fonctionnent de nouveau normalement. Pas de lien direct avec la cyberattaque qui a visé le groupe La Poste, selon la BPCE. Enfin, il était connu pour ses titres The Road to Hell ou encore Joséphine, que vous entendez à l'instant. Le chanteur britannique Chris Rea est décédé à l'âge de 74 ans. Sa famille l'a annoncé, star de variété rock anglaise. Il avait enregistré plus de 20 albums originaux en 40 ans de carrière. Enfin, le temps. Météo France qui place l'Hérault en vigilance rouge au cru. 5 départements placés eux en vigilance orange. L'Aveyron, la Haute-Corse, la Lozère, le Tarn et le Var. L'Hérault qui est aussi placé en vigilance orange pour pluie, inondation. L'Aveyron et le Tarn restent en orange, neige et verglas jusqu'à demain matin. Et demain, le ciel restera couvert sur la majorité du pays avec de la pluie sur l'Occitanie, la région PACA et la Corse, avec des averses plus marquées autour de la Méditerranée. Côté température, des gelées attendues sur le nord et le nord-est, au mercure 2 à 6 degrés, 6 à 12 degrés près de la Méditerranée le matin et en journée, des maximales comprises entre 8 à l'est et 17 degrés pour le sud-est. Ce journal a été préparé par Brice Garcia, Grégory Wallon à la technique.